En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Entre Méditerranée et Golfe Persique, cette région que l'historien Polybe nommait Mésopotamie, ou terre entre deux fleuves, irriguée par l'Euphrate et le Tigre, couvrait le territoire de l'Irak actuel.
RTL.
Pendant près de 5000 ans, le sable brûlant du désert irakien a gardé les traces des fondateurs de la plus vieille civilisation connue, les Sumériens.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous en entendez parler tous les jours, la guerre en Syrie, en Irak, les menaces que représente cette région du monde où l'État islamique s'est implanté. Comment imaginer que sur cette même terre, il y a des millénaires, on trouve l'origine de presque tout ce qui fait notre civilisation. Par exemple, l'écriture. Ariane Thomas, sait-on quand et comment elle a été inventée?
L'écriture est née au 4e millénaire.
Avant notre ère.
Avant notre ère, on va beaucoup parler d'avant notre ère. Mmh. Donc, pour certains au 34e, d'autres 33e, donc autour de 3200 avant notre ère, mmh, apparaît l'écriture, la première du monde, une écriture qu'on va appeler cunéiforme de notre ère, c'est-à-dire quand on va la redécouvrir et qu'au début on ne la comprend pas, donc on va simplement constater qu'elle ressemble à des coins, donc des clous, donc cuneus en latin, et on va l'appeler cunéiforme. Donc cette écriture qu'on voit sur des tablettes d'argile en quantité, sur des inscriptions aussi en pierre, en métal, va être déchiffrée par des savants à partir du 19e siècle, et elle va révéler qu'elle a servi à noter une quinzaine de langues, y compris donc la première qui serait le sumérien.
Si alors on se projette 5 millénaires, donc c'est-à-dire 3200 ans avant notre ère, et que l'on observe un Mésopotamien qui écrit, comment il faisait?
Alors, je l'ai dit un peu, il note surtout sur de l'argile. Donc on va prendre l'exemple du support de l'argile. Il va prendre une petite boule d'argile fraîche qu'il va modeler avec ses mains, l'aplatir. Et avec ce qu'on appelle un calame, qui est souvent un roseau, mais ça peut être un bout de bois ou n'importe quoi, il va imprimer ses signes en creux dans l'argile fraîche. Ça va sécher ou ça va être cuit. Dans certains cas, on veut au contraire bien conserver les tablettes, donc on va les cuire. Puis ça va rester et c'est un support extrêmement pérenne qui fait que c'est le plus important des corpus antiques.
Et ce Mésopotamien qui écrit, il a combien de lettres à sa disposition?
Alors c'est pas tout à fait des lettres, il a donc ce qu'on appelle des signes qui peuvent avoir différentes valeurs et qui s'élèvent à plusieurs centaines, environ 600. Selon le système, là c'est le plus large. Après, pour compliquer un tout petit peu, l'écriture cunéiforme, je l'ai dit, a servi à noter différentes langues. Elle a aussi été adaptée selon différents systèmes. Et si elle apparaît à la fin du 4e millénaire, au milieu du 2e millénaire, donc longtemps après, le système va être simplifié pour devenir un système alphabétique, là encore le premier que l'on connaisse et duquel est dérivé le nôtre.
Cette écriture, cette première écriture cunéiforme, elle a permis de commencer à raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, ou des femmes peut-être, je ne sais pas, qui ont commencé à raconter ce qui s'était passé, ce qui s'était, ce qu'il fallait retenir, c'est ça?
On a une rupture assez conventionnelle qu'on apprend dès qu'on est enfant entre ce qu'on appelle la préhistoire et l'histoire. La rupture étant l'apparition de l'écriture. On parle aussi de proto-histoire pour les zones qui n'utiliseraient pas l'écriture alors que d'autres en parallèle l'utilisent. Donc l'histoire commence en Mésopotamie avec l'apparition de cette écriture, jusqu'à nouvel ordre, puisqu'évidemment, en archéologie, ce qui est formidable, c'est que tout peut changer si on fait une découverte sensationnelle. Mais enfin, à ce jour, c'est le cas. Et si l'écriture est apparue dans d'autres zones, ça reste la première. Le titre fait aussi référence à un autre élément, c'est que vous l'avez un peu dit, ces textes, on peut noter différentes choses. On sait qu'on a beaucoup de textes comptables, des étiquettes, des badges, mais on a aussi des textes historiques. Et à partir de là, on peut aussi considérer qu'on a d'une certaine manière les premiers historiens. En tout cas, on sait que les Mésopotamiens ont été soucieux d'utiliser cette écriture pour noter, pour récapituler ce qui avait pu se passer, donc des listes dynastiques, mais aussi des récapitulatifs d'événements, par exemple, succession de conflits au fil de plusieurs règnes sur plusieurs siècles. Donc, une forme d'histoire qui apparaît aussi en Mésopotamie.
Avec une conscience pour ces premiers historiens de laisser un témoignage à venir de fixer quelque chose, alors pas dans le marbre, mais
dans l'argile
cuite, comme vous l'avez dit.
Ouais. Cuite ou simplement séchée.
Ou séchée.
Et qui est vraiment, je dirais, une forme d'histoire, parce que subjectif, et on sait qu'ils font une forme de tri, et qu'il y a des dynasties qu'on oublie complètement parce qu'on ne les note pas, alors qu'elles ont bien existé, et que l'archéologie les a révélées. Donc une histoire qui est déjà subjective.
Elle a été utilisée pendant longtemps, cette écriture cunéiforme ?
Elle a été utilisée pendant 3000 ans, donc assez longtemps.
Oui, quand même.
Que la nôtre à ce jour. Et comme je l'ai dit, elle note 15 langues. Elle est aussi donc très diffusée et largement utilisée en dehors même de ce qu'on appelle aujourd'hui la Mésopotamie, donc essentiellement l'Irak et la Syrie. On la retrouve dans tout le Proche-Orient pour noter toutes ces langues et toutes ces variétés de textes.
On sait pourquoi elle a disparu ?
Elle a disparu, donc, pour divers motifs, mais en particulier par des soucis de simplification sans doute. Donc j'ai dit qu'on avait déjà cette étape de l'alphabet qui réduit à une trentaine de signes le corpus.
Versus 600, comme vous disiez. Ouais.
Donc qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et puis c'est aussi une question de support. On sait qu'au premier millénaire, les langues, alors en particulier suite au sumérien, l'acadien, une autre des langues notées en cunéiforme, vont se faire concurrencer par des langues qui sont notées, elles, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire de manière cursive sur un support type parchemin, papyrus. Beaucoup moins pérenne, beaucoup moins bien conservée. Donc, en gros, au premier millénaire, on a cette concurrence et va gagner, par exemple, l'araméen, le grec, qui, eux, sont notés différemment.
Alors, l'avantage, évidemment, de ces tablettes si bien conservées, c'est qu'on peut découvrir comment vivaient les Mésopotamiens, ces villes, tout ce qu'ils ont inventé, et c'est ce qu'on va vous raconter tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On visite le berceau de nos civilisations sur RTL, une région du monde où il y a 5, 6, 7 000 ans, des hommes et des femmes ont inventé les villes, l'écriture, l'agriculture ou la comptabilité. On visite la Mésopotamie, la terre entre deux fleuves, grâce à la commissaire d'exposition, Ariane Thomas. Alors l'histoire commence en Mésopotamie. Pourquoi cette région du monde avait plus d'atouts que d'autres régions ?
Difficile de...
Il y avait la Chine aussi, répondre. L'Amérique du Sud. Pourquoi elles sont un peu en avance ?
Alors, pourquoi en avance ? Déjà, c'est difficile de savoir qu'ils sont absolument en avance. Hein, je l'ai dit, en archéologie, ouais. On fait en l'état de nos connaissances. Ce que l'on sait, c'est que ce ne sont pas que des atouts, peut-être, qui ont favorisé ce territoire. C'est donc le territoire entre les fleuves, un territoire qui est certes irrigué, mais qui va néanmoins avoir aussi beaucoup d'aridité. Et donc avoir besoin de travailler la terre, ce qui va d'ailleurs peut-être avoir certaines réminiscences bibliques ensuite, mais donc de travailler et d'inventer un certain nombre de choses pour que ce territoire lui soit propice. Par exemple, c'est donc là qu'on retrouve les tout premiers canaux, il y a 8000 ans. Les canaux d'irrigation qui semblent donc inventés dans ce territoire et qui vont lui permettre de développer une agriculture intensive, extrêmement prospère. Agriculture, mais aussi élevage, de dizaines de milliers de troupeaux par exemple.
Avec le matériel qui va avec.
Et le tout donc va permettre à ce territoire de devenir très prospère. Agriculture, élevage allant aussi de pair avec le développement d'artisanat, puisqu'évidemment avec les bêtes, on peut par exemple avoir une industrie textile, de la laine, par exemple. Et donc, pour faire simple, un pays qui va développer un certain nombre de ses ressources, qui va de pair aussi avec l'inventivité, j'ai donné l'exemple de l'invention de l'irrigation, mais qui en même temps a donc un certain nombre de ce qu'on ne pourrait pas appeler des atouts, c'est-à-dire des matières qui lui manquent, par exemple les minerais, certaines pierres, même certains bois, et qui va donc très tôt, dès ce que l'on appelle les époques préhistoriques, être tourné vers l'extérieur et développer une forme de commerce et d'échange parfois à très longue distance, jusque en Asie centrale, en Inde, pour donner des exemples. Par conséquent, je dirais que c'est toujours difficile de répondre, mais on observe qu'on a un territoire qui est un carrefour au cœur du Proche-Orient, qui a des atouts, qui a aussi des inconvénients, mais le tout va aussi créer cette espèce de dynamisme et cette inventivité qui peut en partie expliquer pourquoi on observe tant de jalons en fouillant ce sol.
C'est donc une économie agricole que vous nous décrivez. Elle fonctionne d'abord sur quoi ? Sur le troc ?
Non, c'est des échanges avec justement tout un système de poids et mesures qu'on montre aussi dans l'exposition. Oui. Poids et mesures qui va être uniformisé par un certain nombre de rois, puisque c'est aussi une manière de dominer et d'unifier un territoire. Vous parliez de l'apparition de l'État, ça passe aussi par ce genre de mesures qui sont unification des langues, unification des poids et mesures et contrôle des échanges.
Par unification des mesures, juste pour bien se représenter ce que c'est les unités de mesure, c'est ça ?
Ouais. Pour faire simple, hein, on a des étalons qui vont permettre de dire que tel bien, eh bien, il a un équivalent, par exemple, en argent. Et qu'on va donc avoir des échanges qui sont malgré tout... Il y a une certaine valeur qui est la référence et qui va permettre ces échanges. Donc, quand même, il n'y a pas d'argent en cours, il n'y a pas de monaie qui apparaît plus tard.
C'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a pas de monnaie centrale.
En revanche, il y a des prix.
D'accord. Ah oui.
Donc un échange de biens.
Il y a même des évolutions de prix. Pour citer un exemple, on sait, et on le montre aussi de nouveau dans l'exposition, il y a des échanges surtout, on peut vendre des céréales évidemment, des tissus, mais on vend aussi des immeubles, des terrains. Et on observe par exemple que dans certaines villes, l'immobilier, il y a une pression de l'immobilier, donc les prix, on les observe aussi là.
Donc il y avait déjà une inflation en Mésopotamie,
dans
il y a 3200 ans avant Jésus-Christ.
Dans certains cas, on observe en effet que forcément on est comme dans notre monde actuel en proie à des paramètres et que s'il y a une certaine pression et les prix peuvent évidemment flamber.
Il n'y avait pas de taux d'intérêt peut-être encore à l'époque.
En revanche, on sait aussi qu'il y a justement ces problèmes de dette et on en parle aussi dans l'exposition puisque en Mésopotamie ancienne, en revanche, il y a quand même de grandes différences. C'est un monde qui semble très proche du fait aussi de cette richesse des textes, mais qui est en même temps lointain, c'est un monde antique où on peut, enfin peut-être pas si antique, perdre sa liberté si l'on perd sa liberté économique. Donc pour des questions de dette économique, on peut perdre sa liberté juridique et entraîner parfois certains membres de sa famille. Donc on montre aussi qu'il y a les premières lois et parmi ces premières lois, il y a aussi des décrets qui essayent de redonner un ordre et un équilibre dans la société en redonnant la liberté à ceux qui l'auraient perdu, en particulier dans ce cas-ci.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne, que comme nous, on a nos badges pour rentrer à RTL, il y avait des badges en Mésopotamie.
Oui, on a des badges, on a des étiquettes, on a disons qu'on n'a pas seulement des tablettes de bibliothèque. L'argile, de nouveau, a cette qualité remarquable pour l'archéologue d'être extrêmement bien conservée dans le temps. Et on a beaucoup d'éléments inscrits en cunéiforme qui n'étaient sans doute pas destinés par celui qui les a fabriqués, comme j'ai dit tout à l'heure, à rester et à être lus ou présentés dans un musée aujourd'hui.
Une étiquette d'équivalent, justement, de
par exemple, un ballot dans une jarre que l'on ferme par un tissu et une cordelette. La cordelette étant ensuite scellée par une bulle d'argile fraîche qui va sécher, sur laquelle, avant qu'elle ne sèche, on va par exemple imprimer un sceau. Donc, on ne pourra pas le refaire sans avoir le sceau. Et ça crée une étiquette.
Donc, c'est effectivement l'une des expressions, on va dire, des mathématiques et de la comptabilité, puisqu'il a fallu faire de la comptabilité dans cette société mésopotamienne, j'y arrive. Donc, les premières villes du monde, c'est difficile, vous nous l'avez dit, sont apparues là-bas. Tiens, on va visiter...
On dit quoi ? Uruk ?
Je sais pas.
Uruk.
Voilà,
ça s'écrit Uruk. Les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
La ville fut nommée Alep parce qu'Abraham, que la paix soit sur lui, y aurait habité.
RTL. De Bagdad, le califat abbasside étendait son influence de l'Espagne aux confins de la Chine, ville des mille et une nuits.
Née sous le nom de Tadmor, il y a environ 4000 ans, Palmyre fleurit dans un milieu aride. À l'ombre de deux puissants empires rivaux, Romains et Parthes.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Alep, Bagdad, Palmyre, ce sont des noms de villes que vous entendez presque tous les jours dans l'actualité, des noms associés aujourd'hui à la guerre, à la destruction de sites archéologiques. Pourtant, il y a quelques millénaires, les habitants de cette région du monde, qui s'appelait la Mésopotamie, inventaient presque tout ce qui fonde nos civilisations. La Mésopotamie a donc inventé les villes ? On peut dire ça, c'était à quelle époque ?
Quatrième millénaire, donc au quatrième millénaire avant notre ère, on constate, donc toujours en l'état de nos connaissances, que des sites, et en particulier, on l'a dit, le site d'Uruk, donc dans le sud de la Mésopotamie, pas très loin du golfe arabo-persique, a changé et ne se présente pas comme les villages que l'on connaissait et que l'on va connaître jusqu'à nos jours, évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont, semble-t-il, un nouveau mode de fonctionnement et ils apparaissent avant tout comme des centres d'échange, de nouveau, pour simplifier.
C'est ça qui définit une ville, l'échange, alors que dans les villages,
et
il y a
un certain nombre de fonctions que l'on n'avait pas. Et on va voir que ça amène un certain nombre d'innovations parallèles à l'innovation urbaine. Donc, dans une ville, on trouve des marchands, des administrateurs, des marchands qui vont aller plus ou moins loin. Donc oui, on pourrait dire qu'à la différence d'un village qui pourtant peut échanger avec l'extérieur, la ville se définit avant tout comme un centre ouvert sur l'extérieur où s'échangent en fait des marchandises, des hommes et aussi des idées, ce qui peut aussi expliquer l'aspect extrêmement innovant de cette période qu'on appelle souvent la période proto-urbaine. Donc on voit apparaître ces premières villes.
Ce n'est pas une question de taille. Une ville, ce n'est pas juste un village qui grandit.
C'est pas une question de taille. Et on considère qu'il y a un certain nombre de critères. Je viens de lister les principaux.
Et cette ville d'Uruk,
si on devait l'imaginer, ce n'est pas le cas, mais elle pourrait, sur le principe, être plus petite qu'un village et être néanmoins qualifiée de ville.
D'accord.
Alors, une des innovations extrêmement célèbres de la période urbaine, c'est l'écriture, puisque dans ce contexte d'échanges de plus en plus développés et sans doute de plus en plus complexifiés, on considère souvent que l'écriture est finalement un des codes de gestion les plus sophistiqués qui apparaît à la fin de cette période, donc à la fin du quatrième millénaire, on l'a dit tout à l'heure, et qui va en particulier servir à noter, à mémoriser ces transactions, donc en particulier dans le cadre des tablettes économiques et comptables. Et c'est d'ailleurs ce que racontent les légendes mésopotamiennes. Donc on dit que Enmerkar, roi d'Uruk, a inventé l'écriture en notant, en prenant pour la première fois de l'argile qu'il a aplatie de ses mains et en notant ses signes, pour échanger, enfin dans le cadre de relations, avec un roi d'Arata, une région qu'on ne situe pas très bien, mais qui serait a priori dans le plateau iranien.
Ariane Thomas, que reste-t-il aujourd'hui de cette première ville répertoriée au monde, Uruk ?
Alors, il en reste des vestiges très conséquents qui font d'ailleurs que ce site n'a pas du tout été fouillé entièrement parce qu'il est considérable. C'est pour ça que je disais qu'en l'occurrence, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est un site assez vaste.
C'est toujours une ville ?
Ça n'est plus une ville. Ouais. En revanche, et c'est assez marquant, le site moderne s'appelle Varka, donc témoignant quand même d'une mémoire remarquable sur des millénaires du nom de la ville antique d'Uruk. Uruk Varka, c'est vraiment une déformation assez limpide. Enfin, on voit que ça a été suivi. Donc, sinon, pour vous répondre, à Uruk, on voit quand même un certain nombre de monuments, puisque dans les villes, on va aussi avoir des monuments témoins de ces autorités religieuses, politiques, administratives qui se mettent en place dans ces grands centres. Par ailleurs, juste Uruk est aussi un bon exemple du fait que si on va avoir des villes qui vont avoir une existence courte, on a aussi des villes qui vont survivre pendant une durée qui nous apparaît assez remarquable, puisqu'on cite souvent Rome, mais Uruk ou la ville de Ninive ont vécu des millénaires et des millénaires. Mmh. Et donc à Uruk, bien sûr, si on y allait aujourd'hui, eh bien on y verrait à la fois des témoins de cette toute première époque du quatrième millénaire, mais des vestiges du troisième, du deuxième, du premier millénaire, et ainsi de suite.
Mais qu'est-ce qui a réuni ces hommes sur ce site ? La religion, le commerce, c'est quoi le point de départ ? Est-ce qu'il y a un premier sanctuaire, un premier...
C'est discuté, puisque évidemment, ce qui se passe juste avant, on ne le sais pas de manière tout à fait exacte, mais en revanche, on constate que oui, c'est un centre comme d'autres qui prospère donc dans ce contexte d'échange. Donc on a des magasins et en revanche, on a aussi des structures qui sont les témoins, je l'ai dit, d'une élite en place, élite administrative, élite politique, élite religieuse. La question se pose de savoir si quelles sont les limites et quelles sont aussi les limites volontairement floues entre un pouvoir politique et un pouvoir religieux, avec également des structures qui sont identifiées comme des temples assez vite. Et d'autres, au contraire, qui ont été considérées comme des temples et qui aujourd'hui apparaissent davantage comme des palais.
Ariane Thomas, est-ce qu'on sait quels étaient les dieux qui étaient vénérés par les habitants d'Uruk ?
Alors, ça dépend de nouveau de quelle période, mais je vais vous répondre du coup par un biais, à savoir à l'époque historique, une fois qu'on a des textes, on sait que Uruk, c'est notamment la ville de la déesse Ishtar ou Inanna en sumérien, que l'on connaît bien parce que c'est une déesse extrêmement puissante, extrêmement vénérée pendant toute la longue histoire mésopotamienne, donc les 3000 ans d'histoire. C'est une déesse qui est à la fois liée à l'amour fertile et en même temps une déesse de la guerre qui soutient le roi dans ses campagnes militaires. C'est une déesse qui apparaît par exemple dans un texte comme l'épopée de Gilgamesh, qui est un des textes les plus célèbres de la littérature mésopotamienne. Donc pour vous répondre, voilà, par exemple à Uruk, c'est en particulier le règne de la déesse Ishtar, et puis dans d'autres villes de Mésopotamie, on a un certain nombre d'autres grandes divinités.
Des divinités et des rois aussi. Mm-hmm. Cette civilisation mésopotamienne a inventé les rois, en quelque sorte. On va vous raconter ça tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre la Mésopotamie sur RTL, cette civilisation qui a inventé l'écriture, les villes, l'État ou encore les rois. C'est ce que notre invité Ariane Thomas va nous raconter tout de suite. Alors en France, c'est vrai, quand on dit roi, on pense à Louis XIV, à Versailles. Est-ce que les rois de Mésopotamie avaient aussi un palais et leur cour ?
Oui, tout à fait. En revanche, leur pouvoir pouvait grandement varier. Le roi en Mésopotamie, il y en a un certain nombre qui sont très célèbres. Évidemment, si on les prend dans le désordre, je crois que le plus célèbre, c'est Nabucodonosor II de Babylone. Mais on connaît peut-être aussi Hammurabi, de nouveau de Babylone, ou Ashurbanipal d'Assyrie, et j'en passe. Donc on essaye de rappeler ces grandes gloires. Simplement, sur 3000 ans d'histoire, il y en a bien d'autres. Donc pour répondre à votre question, il est évident qu'il y a aussi des rois qui n'avaient pas tout à fait le même pouvoir.
Et donc, ils ne régnaient pas forcément sur toute la Mésopotamie, ils régnaient sur une partie, une ville, une région, c'est ça ?
Donc, la Mésopotamie est en effet une histoire un peu compliquée, dans la mesure où c'est une terre de métissage, avec différents peuples, avec différents royaumes, qui se juxtaposent dans le temps, dans un certain nombre de cas, et donc on a un territoire qui peut être divisé par moments, un certain nombre de ruptures aussi au fil de cette histoire. Et puis, par moments aussi, et en particulier à la fin de ces 3000 ans d'histoire, de grandes périodes d'unification avec de grands empires qui vont d'ailleurs largement dépasser le territoire mésopotamien proprement dit, pour ce qui est par exemple des grands empires assyriens ou babyloniens. Donc on parlait de Nabucodonosor, il a réussi à dominer une large partie du Proche-Orient.
C'est l'apogée de... du pouvoir en Mésopotamie, cette période-là. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu un roi plus puissant que Nabucodonosor ?
Les grands empires qui vont effectivement dominer jusqu'à l'Égypte, par exemple. Alors là, justement, pas avec des rois assyriens, peut-être un peu moins connus, on peut rappeler la mémoire à l'antenne d'Assaradon d'Assyrie.
Que faisaient-ils, ces rois ? Ils faisaient quoi ? La guerre ? Ils faisaient la justice ? Ils rendaient la justice, pardon ? C'était quoi leur...
Donc indépendamment de la variété, de la diversité, de l'étendue de leur pouvoir et des fonctions réelles qu'ils pouvaient avoir, il y a un certain nombre de missions permanentes. Et on sait que le roi, d'abord, doit son pouvoir aux dieux. La royauté est descendue du ciel. Il est, en quelque sorte, le principal intermédiaire avec les divinités. Et il a donc pour mission, avant tout, de les honorer. D'assurer la prospérité du royaume, et ça passe évidemment par la guerre qui est soutenue par les divinités dans le cas de victoire royale. Ça passe aussi par l'administration, on a dit l'apparition de l'État, donc administration mise en place. On a parlé aussi de l'uniformisation d'un certain nombre de pratiques dans le territoire dominé, mais également on a parlé des lois qui vont aussi permettre d'administrer ce royaume.
Avec des rois aussi qui créent des écoles, par exemple, comme Shulgi ou Shulgi.
Shulgi.
Shulgi qui règne sur la ville d'Ur.
Oui, Shulgi d'Ur, donc pas loin d'Uruk, hein, toujours dans le sud de la Mésopotamie, près du Golfe, est resté célèbre d'abord pour son long règne à la fin du 3e millénaire avant notre ère, pour être aussi ceux des rares rois qui se vantent d'être extrêmement lettrés, donc de maîtriser des langues, de savoir déchiffrer les tablettes, et également d'avoir favorisé, donc, en particulier donc, autour des temples, des écoles de scribes dont on sait quels étaient les grands lieux de formation des futurs lettrés qui appartenaient souvent justement à des familles de scribes.
Alors dans ces grandes villes, Babylone par exemple, Babylone, si on devait imaginer sa taille par rapport à une grande ville d'aujourd'hui, ce serait quoi? Est-ce qu'on peut répondre à cette question?
On considère que c'est pour l'Antiquité une mégapole, donc c'est vraiment une ville énorme, et c'est d'ailleurs ce que racontent les auteurs antiques, qui sont frappés par son gigantisme, par sa beauté également. Donc c'est pas seulement sa taille qui va être admirée, mais on estime que au premier millénaire avant notre ère, Babylone fait 1000 hectares et serait la plus grande ville de toute l'Antiquité. Alors un voyageur resté célèbre comme Hérodote dit que sa beauté est telle qu'il ne connaît pas de ville qui puisse lui être comparée.
Mais on a du mal à imaginer comment une telle ville peut disparaître.
Eh bien, c'est une forme de leçon de modestie, puisque ce n'est pas seulement Babylone qui a été désertée, mais c'est quelque part presque toute l'histoire mésopotamienne qui a été oubliée au fil des siècles au moment de sa disparition. Elle n'a pas disparu complètement. Il en reste de nombreux vestiges qui, grâce à l'archéologie et à l'étude du matériel découvert, permet de retrouver toute cette histoire jusque-là oubliée.
Merci beaucoup.
C'est la fin de l'émission. Vous pouvez nous podcaster sur rtl.fr.
Hein,
oui, mais il y a le podcast. On peut l'écouter toute la nuit.
Vous faites ça pour dormir?
Bien sûr, vous nous écoutez. On se retrouve demain à 20h avec le programme.
Dingues, les dingues qui se réécoutent la nuit. Non, on ne fait pas ça. Alors
on dort.
Demain, on sera là pour vous raconter la vie de Frédéric Dard et évidemment de son célèbre commissaire San Antonio. Il y aura les secrets du rock'n'roll dans la curiosité et puis aussi ceux de la pomme de terre.
Un parfait coq-à-l'âne. Encore
bien.
Programme varié dans notre émission. C'est comme ça tous les jours dans la curiosité. Allez, bonne fin de soirée à vous. À demain. Place à RTL Grand Soir.